Être et vivre entre intelligence et amour. Deuxième cours, l'intelligence. Dans ce deuxième chapitre, nous entrons dans la question de l'intelligence. Car ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est que l'homme a l'esprit, qui est en premier lieu la capacité de connaître. Descartes aurait dit à ce sujet que la première activité de l'homme, en tant qu'animal raisonnable, est sa capacité de penser. Or, la pensée nous met dans l'immanence, dans l'intériorité de la vie intellectuelle. Si nous raisonnons de cette manière, nous pouvons aussi supposer que l'animal peut penser, puisque l'intériorité de la vie intellectuelle ne peut être saisie de l'extérieur. Une personne m'a dit une fois : « Qu'est-ce qui prouve que l'animal ne pense pas ?» Cela amène le philosophe, ou bien l'homme qui philosophe, comme nous le faisons en ce moment, c'est-à-dire qui étudie ce qu'est l'homme en tant qu'homme, à saisir l'esprit humain dans sa relation au monde, donc à l'homme en tant qu'autre et à l'univers. Ce que nous avons essayé de faire au cours de la session précédente, être et vivre entre l'univers et l'homme. Premièrement, l'appréhension et l'assimilation. Qu'est-ce que l'intelligence? Dans son étymologie, intelligence vient du latin intus legere, ce qui signifie lire de l'intérieur. D'où découvrir en profondeur ce qui est, c'est-à-dire l'être d'une réalité, ce que sont les réalités existantes qui nous entourent. C'est pour cela que le premier contact de l'intelligence réside dans un jugement qui est un jugement d'existence. Ceci est. En premier, l'intelligence est en acte devant l'exister d'une réalité, quelque chose ou quelqu'un. Par l'intermédiaire des sensibles propres, des sensations, elle entre en contact avec une réalité autre. L'intelligence veut découvrir la réalité et saisir sa signification essentielle, c'est-à-dire ce qu'elle est. Je suis face à une maison, une montagne, un arbre ou un objet, et je me pose la question, qu'est-ce que c'est? Cela rappelle la question que tous les enfants posent quand ils découvrent la vie, papa, maman, c'est quoi? En répondant à la question qu'est-ce, l'intelligence saisit les déterminations de la réalité. Il s'agit de l'appréhension. Quand je regarde une fleur, ma vue est en contact avec cette réalité qui est devant moi. Je la reçois dans mon intelligence. Plus précisément, je reçois une part de sa forme qui vient marquer mon esprit, lui apporter une certaine connaissance. C'est l'appréhension. Si nous consultons le dictionnaire, par exemple Robert, nous lisons pour appréhension, le fait de saisir par l'esprit. Et pour appréhender, saisir par l'esprit. Appréhender vient du latin appréhendere. Appréhendere vient de préhendere. Prendre. Appréhendere se traduit par saisir, concevoir, d'où prendre en soi. Dans sa première démarche, l'intelligence saisie prend en elle-même la forme de la réalité qu'elle conçoit, d'où le concept par l'image, la photographie que l'intelligence fait de la réalité qui est face à elle, qu'elle reçoit. Cette remarque note l'importance du langage, donc sa précision, et à l'inverse, les erreurs commises quand le langage est déformé, quand il déforme la réalité. En premier lieu, l'intelligence entre en contact avec la réalité en posant le jugement d'existence « ceci est ». L'animal ne pose pas de jugement d'existence. L'intelligence le pose. L'instinct ne peut pas le poser, car le jugement d'existence implique la conscience de ce qui est. Dans la réalité en tant qu'elle existe, l'intelligence saisit la forme. Je vois un arbre, je vois une personne. Quand je l'entends sans la voir, je peux me tromper et la confondre avec autre chose. Un animal qui marche, par exemple. Même si le bruit des pas n'est pas le même, mais dans le lointain, dans la forêt, par exemple, le bruit des pas sur un sentier couvert de feuilles n'est pas toujours reconnaissable de la réalité qui existe, mais que je ne vois pas. Par l'un des sensibles propres, je saisis la forme, une part de la forme. Parfois, je ne la saisis pas, ne la voyant pas, ne la touchant pas, mais je saisis son existence. Forme et matière sont intrinsèquement liées pour définir la réalité. L'intelligence appréhende donc une réalité en saisissant sa forme, en saisissant la réalité par sa forme. Mais la forme ne dit pas tout de la réalité. Ce n'est pas parce que vous regardez un arbre que vous savez ce qu'il est. Ce n'est pas parce que vous regardez une personne que vous la connaissez. L'appréhension dit quelque chose de la réalité. L'intelligence saisit ce qu'on appelle l'intelligibilité de la réalité, ce que l'intelligence peut recevoir d'elle. De quoi s'agit-il ? L'intelligence s'interroge. Qu'est-ce que c'est ? Aristote dit que l'intelligence reçoit le toti en inné de la réalité. Le qu'est-ce qu'elle est ? Que l'intelligence a la capacité de recevoir, ce qui a été traduit en latin par quiditas, puis en français par quidité. Après l'existé de la réalité expérimentée, l'intelligence reçoit sa forme et découvre ses déterminations, sa quidité, son intelligibilité, c'est-à-dire ce que l'intelligence peut recevoir, peut saisir. C'est l'appréhension. Il faut noter, après avoir compris cela, que dans l'acte d'appréhension, l'intelligence devient intentionnellement la réalité. Ce qui signifie que l'intelligence recevant la réalité l'assimile en étant modifiée par elle, sans que la réalité ne soit elle-même modifiée. Revenons à l'exemple de la fleur. Je regarde une fleur. En la regardant, je suis modifié par elle, puisque je la découvre et que j'acquiers une connaissance d'elle que je n'avais pas auparavant. Dans mon intelligence, par la connaissance reçue. Je suis modifié par la réalité que je découvre. Mais la réalité n'est pas modifiée par moi, sauf si je la touche, si je la prends, et si, en la prenant, je la modifie en la transformant. C'est cela l'assimilation intentionnelle. Dans la vie végétative, je mange, j'absorbe un aliment et je le mange, puis je le digère. J'assimile quelque chose que je détruis pour ma croissance biologique, pour me permettre de vivre en m'alimentant. L'aliment est ma nourriture vitale biologique. Dans la vie sensible, c'est différent. L'assimilation n'implique pas une destruction de l'autre, mais un respect de l'autre qui est reçu comme connaissance dans l'intelligence et non comme besoin vital d'ordre alimentaire. Certes, la connaissance est un besoin vital, mais d'ordre intellectuel. Nous vivons dans le monde en relation avec les autres. Nous avons donc un besoin vital de connaissance, de nourriture spirituelle, d'apport intellectuel, mais qui n'est pas de nature végétative, mais de nature sensible et spirituelle. Quand je marche dans le noir, je touche des objets pour me repérer et non pour les absorber. Quand je suis en cours ou que je lis un livre de philosophie, je me nourris intentionnellement de ce qui est écrit. Ce qui est écrit ne peut pas être mangé, sauf le papier. Mais ce n'est pas du même ordre, avec les mêmes conséquences, car j'aurai mal à l'estomac. Dans son activité, l'intelligence assimile intentionnellement la forme de la réalité, donc sa quidité. L'assimilation désigne le mode de fonctionnement de la vie intellectuelle. Aussi, l'appréhension et l'assimilation représentent deux niveaux distincts et fondamentaux de la vie de l'intelligence. L'appréhension désigne la première opération vitale, tandis que le jugement d'existence est le premier acte d'ordre existentiel, et non une opération impliquant une activité formelle. Nous pouvons dire que l'appréhension est la première connaissance fondamentale opérant par mode d'assimilation intentionnelle. C'est le premier moment de la vie intellectuelle dont le fruit est le concept. En effet, l'intelligence abstrait ce qu'elle reçoit de la réalité, qu'elle conceptualise sous un mode intellectuel. D'où l'apparition de l'universel qui permet le passage du multiple à l'un, de la réalité à son intelligibilité par l'abstraction. Deuxièmement, le principe de non-contradiction. Devant une réalité et préalablement à toute appréhension, l'intelligence porte un jugement sur l'existé de la réalité qui est face à elle, en affirmant « ceci est ». C'est le jugement d'existence. Cependant, dans son immanence, l'intelligence peut nier ce contact immédiat en s'opposant intellectuellement, donc intentionnellement à la réalité, en disant « ceci n'est pas ». L'intelligence peut donc affirmer ou nier une même réalité. Elle peut dire cela, puisqu'elle implique l'immanence du vécu intellectuel. Dans l'histoire de la philosophie, la négation est passée devant l'affirmation. Ce fut avec Descartes, au XVIIe siècle, une rupture qui a marqué le début de la modernité. En mettant la critique a priori à la place de la critique a posteriori, la pensée s'est imposée sur la réalité. D'où la vérité formelle sur la vérité ontologique. La négation est alors passée devant l'affirmation. Cette inversion contredit radicalement l'affirmation d'Aristote dans La Métaphysique au livre Gamma. Ouvrez les guillemets. Celui qui connaît les êtres en tant qu'êtres doit être capable d'établir les principes les plus certains de toute chose. Or, celui-là, c'est le philosophe. Et le principe le plus certain de tous est celui au sujet duquel il est impossible de se tromper. Quel est-il ? Nous allons maintenant l'énoncé. Le voici. Il est impossible que le même attribut appartienne et n'appartienne pas en même temps au même sujet et sous le même rapport. Tel est donc le plus certain de tous les principes. Il n'est pas possible, en effet, de concevoir jamais que la même chose est et n'est pas, comme certains croient qu'Héraclite le dit. Mais tout ce qu'on dit, il n'est pas nécessaire qu'on le pense. Et s'il n'est pas possible qu'en même temps des contraires appartiennent à un même sujet, et si une opinion qui est la contradictoire d'une autre opinion est son contraire, il est évidemment impossible pour un même homme de concevoir en même temps que la même chose est et n'est pas. C'est pourquoi toute démonstration se ramène à cet ultime principe, car il est naturellement principe même pour tous les autres axiomes. Fermez les guillemets. Le principe de non-contradiction est le premier principe de l'intelligence qui saisit ce qui est. Saisissant ce qui est, elle ne peut pas affirmer en même temps que ce qui est n'est pas. Le principe de non-contradiction s'exprime donc ainsi. Il n'est pas possible en même temps d'affirmer et de nier la même réalité ou la même qualité, le même attribut par rapport à la même réalité. Par exemple, il n'est pas possible de dire en même temps « Pierre est là, Pierre n'est pas là ». L'exister précède donc la pensée qui ne peut s'imposer sur la réalité, car la pensée est fondamentalement relative à la réalité. Si la réalité n'existait pas, la pensée ne pourrait pas se manifester par rapport à elle. Troisièmement, le jugement. L'appréhension impliquant une assimilation conduit au jugement, qui est la seconde opération de l'intelligence. L'intelligence appréhende la forme de la réalité, son intelligibilité, sa quidité, par une assimilation intentionnelle qui est, rappelons-le, le mode de fonctionnement de la vie intellectuelle différente de la vie végétative, puisqu'elle ne détruit pas la réalité assimilée. La réalité n'est pas modifiée. C'est l'intelligence qui est modifiée par la connaissance reçue. Puis, Forte de cette nouvelle connaissance, l'intelligence pose un second acte dont elle a pleinement conscience, le jugement. Dans l'appréhension, la conscience demeure relative à la réalité assimilée. Quand j'affirme « ceci est », je suis conscient de ce que je dis. Quand je pose un jugement d'existence sur une réalité, mon intelligence est consciente de ce qui est, puisqu'elle reçoit l'existé de la réalité d'une manière immédiate et impérative. Par exemple, il est là. Je suis conscient de sa présence. Le jugement, second acte de la vie de l'intelligence, implique la conscience du principe de non-contradiction. L'intelligence ne peut pas affirmer en même temps qu'une réalité est et qu'elle n'est pas. Si quelque chose est, il est. S'il n'est pas, il n'est pas. Il ne peut pas être et ne pas être en même temps. Par contre, l'intelligence, dans sa capacité d'abstraire, grâce à l'appréhension, peut affirmer et nier en même temps. La dialectique hegelienne repose sur la fameuse trilogie thèse, antithèse, synthèse, ce qui différencie radicalement la philosophie réaliste de la philosophie dialectique hegelienne, c'est la confusion entre la réalité en tant qu'elle est et la pensée dans son identité. Le « je suis » prend la place du « ceci est ». Dans « je suis », « je détermine suis ». C'est le « je » qui s'impose. Tandis que dans « ceci est » et « détermine ceci », c'est le « et » qui s'impose sur le « ceci », puisque « ceci » n'est pas moi. Le glissement de l'affirmation pour la négation, le glissement de l'être pour la pensée, vient de la dialectique hegelienne, avec Hegel au XIXe siècle, mais antérieurement du cogito de Descartes au XVIIe siècle, inspiré de l'intelligo d'Occam au XIVe siècle. Il caractérise une grande part de la pensée européenne moderne. Dans la vie de l'intelligence, l'appréhension est donc première dans l'ordre génétique, impliquant un jugement premier dans l'ordre de perfection. Le jugement finalise la vie de l'intelligence. Par conséquent, l'intelligence saisit en premier lieu l'existé dans un jugement d'existence, puis appréhende la réalité, premier acte de l'opération intellectuelle, et enfin, porte un jugement conscient sur la réalité saisie, seconde opération de la vie intellectuelle. En tant que premier dans l'ordre de perfection, le jugement est le fruit de la vie de l'intelligence, sa finalité. Cela signifie qu'une intelligence est pleinement elle-même quand elle juge parfaitement, sinon elle n'est pas vraie, parce que son jugement n'est pas vrai. C'est l'adhésion parfaite à la réalité qui implique la perfection du jugement, donc de l'intelligence, dans son opération vitale. Quatrièmement, l'universel. Nous quittons maintenant les deux opérations de la vie intellectuelle pour entrer un court instant dans le mode d'abstraction de l'intelligence. Cependant, il faut reconnaître que cette démarche et complexe. La connaissance implique une abstraction nécessaire à la réflexion, donc à la vie immanente de l'intelligence. L'intelligence entre en contact avec une réalité par le jugement d'existence, ceci est. Elle effectue une première opération intellectuelle avec l'appréhension, assimilant intentionnellement la réalité. C'est ainsi qu'intervient l'abstraction. La vie intellectuelle passe de la saisie de l'être réel à la conceptualisation d'un être de raison, l'universel, que nous examinons dans un regard critique, au sens d'une philosophie critique. Qu'est-ce que la critique ? C'est le retour de l'intelligence sur elle-même pour s'assurer que ce qu'elle affirme est juste et vrai. Il s'agit donc d'une démarche critique a posteriori de l'intelligence sur elle-même et non pas une démarche a priori de la pensée, ce qui est tout à fait différent. L'intelligence doit abstraire la réalité pour l'analyser. Cette démarche vitale commande des modes divers et complémentaires dans l'étude intellectuelle de la réalité existante en la conceptualisant. C'est la vitalité de l'intelligence. En effet, l'abstraction est source d'un être de raison qui est l'universel. Que dire en premier lieu pour comprendre l'universel ? L'universel permet de découvrir l'un à partir du multiple. Cela signifie que la connaissance, du fait de sa complexité, implique la quantité, la division. Par l'universel, l'intelligence passe de la multiplicité à l'unité. Prenons un exemple. Je vois un chat et un chien. Ce sont des animaux. Tel chat ou tel chien existe en tant qu'il est une réalité dont j'ai l'expérience. Dans mon intelligence, je saisis chat ou chien. Chat et chien désignent la signification des réalités vivantes qui sont devant moi. Pour chat ou chien, le mot animal est la signification générique de ces réalités. Animal n'existe que dans l'intelligence et non dans la réalité, comme tel chat ou tel chien. C'est le dépassement du singulier pour le multiple par l'universel, qui est un être qui n'existe que dans l'intelligence, un être de raison. Il existe 5 modalités de l'universel. Le genre, la différence spécifique, l'espèce, la propriété, l'accident. L'homme appartient à l'espèce humaine, au genre animal. Sa différence spécifique, il est raisonnable. Sa propriété, capable d'aimer, par exemple. Ses accidents, il pèse 80 kilos, ou tel autre prédicament relatif à la substance. L'universel se dit de deux manières. Universel générique ou univoque, et universel analogique. Ce sont des attributs. L'universel univoque ou générique désigne un même nom, une même signification. Animal attribué au chat et au chien. Le chien est un animal comme le chat est un animal. Ils ont même nom et même signification. Par contre, l'universel analogique désigne un même nom, mais des significations différentes. Bon peut être attribué au cheval, mais bon a une signification différente selon que l'on parle du cheval en concours hippique ou de la viande de cheval chez le boucher, ou encore du cheval de labour au travail. Dans cet exemple, la qualité « bon » a le même nom, mais trois significations différentes. L'universel, c'est l'un par rapport au multiple, comme nous l'avons dit. Thomas d'Aquin, faisant référence à Aristote, montre qu'il existe une triple relation entre le singulier et le multiple. L'universel, de l'un par rapport au multiple, peut se manifester de trois manières différentes. L'un provenant du multiple, l'un dans le multiple et l'un vers le multiple. Traduction du texte latin original, unum ex multis, venant du multiple, unum in multis, dans le multiple, unum ad multa, vers le multiple. Par exemple, le chien et le chat proviennent du genre animal. Ex désigne ce qu'il y a de commun entre eux. Ce sont des animaux. Le chat et le chien appartiennent au monde animal. Ils sont dedans. In. Le chien et le chat font que le monde animal existe. Animal pour, vers, chat et chien. Dans une réflexion critique, se référant à Aristote, Thomas d'Aquin étudie le concept d'être. Dans le De Veritate, question 1, article 1, il étudie les propriétés de l'être au niveau de son intelligibilité, qu'il désigne par les transcendentaux, en latin les rationes. La ratio, la raison, peut être comprise comme le fondement réel de l'intelligibilité de l'être. Quels sont les transcendentaux? Thomas d'Aquin les désigne en latin res, unum, aliquid, verum, bonum. Comme ce sont des propriétés de l'être, ils sont convertibles avec l'être. Cela signifie que le concept d'être, en latin la ratio entis, reçoit cinq transcendentaux, cinq ratios, qui ont tous la même intelligibilité par rapport à l'être, donc qui sont convertibles avec l'être. Il donne l'intelligibilité de l'être. Res l'être est substantiel. Unum, l'être est un. Aliquid, l'être est séparé des autres. Verum, l'être est vrai. Bonum, l'être est bon. L'être possède à la fois cinq propriétés. L'être est à la fois substantiel, un, séparé, vrai et bon. Les cinq ratios, les cinq raisons sont convertibles avec la ratio entis, la raison d'être. C'est par cette référence complexe au concept d'être avec les transcendentaux que nous terminons cette courte réflexion critique dans le prolongement de la réflexion philosophique sur les deux opérations essentielles, l'appréhension et le jugement, mettant en évidence la profondeur de la vie de l'intelligence. Quelle en est la source en l'homme? C'est ce que nous tenterons de découvrir pour une part importante du prochain chapitre.